de jouer des situations et de lecture. Alors, pas autre chose, c'est le cas.
Juste exactement sur ce point. Exactement sur ce point.
C'est une question adressée à tout le monde. Je vous montre deux très brefs extraits de des textes que Julien a bien voulu photocopier pour nous tous. De très très brefs extraits pour que on soulève cette question. Je soulève une question, je vous adresse à tous, et en particulier nos invités, mais pas seulement à eux, à tous, à Pierre Damien, à tout le monde. C'est une question que je vous adresse. Regardez. Sur le texte qui s'appelle Contribution à la théorie de la pièce didactique, qui est page 240 dans les photocopies que vous avez, nous avons le début, les premières lignes. La pièce didactique enseigne du fait qu'elle est jouée et non parce qu'elle est vue, non pas du fait qu'elle est vue. En son principe, la pièce didactique n'a pas besoin du spectateur, mais elle peut tirer parti de lui. Selon le même dispositif, ce n'est pas absolument indispensable, même si éventuellement ça peut être utile. Et alors, je cherche une explicitation. Il y en a une. Alors, ne la ratons pas, parce que c'est tellement précieux dans le cadre de notre histoire, des séminaires. Nous avons déjà beaucoup demandé, par exemple, à Jean-Marie sur les textes jésuites, à Georges et sur d'autres textes. Voilà, il y en a une, théorie des pédagogies, au tout début de la photocopie. Excusez-moi, je lis 5-6 lignes et je vous demande l'attention à une... Les philosophes bourgeois font une grande différence entre les actifs et les contemplatifs. C'est tout au début, hein. Celui qui réfléchit, voilà, donc peut-être vous et moi, nous tous, ne fait pas cette différence entre les actifs et les contemplatifs. Si on fait cette différence, on abandonne la politique aux actifs et la philosophie aux contemplatifs. Alors que tout de même, dans la réalité, les politiques doivent être des philosophes et les philosophes des politiques. Et puis voilà ce qui nous arrive. Bon, entre la vraie philosophie et la vraie politique, il n'y a nulle différence. S'appuyant sur ce constat, celui qui réfléchit propose d'éduquer les jeunes gens par la pratique théâtrale, c'est-à-dire d'en faire à la fois des actifs et des contemplatifs. Vous pourriez expliciter cette énoncé. C'est-à-dire, est-ce que vous dites, comment est-ce que vous comprenez que la pratique théâtrale, alors la pratique didactique ou l'autre, ça, celui qui réfléchit propose le fait d'éduquer par la pratique théâtrale permettrait de faire de ces gens qu'on instruit ainsi à la fois des actifs et des contemplatifs. C'est ça que je voudrais comprendre.
Des spectateurs et des contemporains.
Alors, c'est alternativement. Alors, attention, ça c'est très important. On revient, je ne sais pas si vous en souvenez, à une question que nous sommes posées il y a quelques longues semaines. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être alternativement dans la vie, spectateur ou acteur? C'est une hypothèse possible. C'est une hypothèse possible. Hein, et éventuellement même dans un délai assez rapproché. Est-ce que l'implication est seulement, il s'agit seulement de cette alternance?
Ou est-ce qu'il s'agit de l'être à la fois, si la traduction est rigoureuse? Je n'imagine pas d'autres hypothèses. Est-ce qu'il s'agit à la fois actif et contemplatif, en quel sens? C'est ça ma question.
Dans ce qui est basé sur l'expérience du Bénin, il me semble que dans ce passage que chacun fait à des endroits différents, il questionne ce qu'il y a en plus de l'alternance et le mouvement. Je pense que ce mouvement, si on considère les deux pôles, si on ne les pas artificiellement pour la démonstration, ce mouvement fait que, effectivement, la position contemplative a une incidence sur la position active, la position active, la position contemplative. Je renvoie ici cette tentative de dire les choses. Il me semble que là, il y a quelque chose d'un mouvement, d'une trajectoire entre les deux termes qui peut permettre qu'ils ne soient pas coupés l'un de l'autre.
Mais là, je vous demande, dans le dispositif théâtre dans le théâtre qu'évoquait Hervé à l'instant, à un certain moment donné, on joue le jeune camarade, à un moment donné, on le regarde, on l'écoute. Et pour actif, quand on le joue et contemplatif, quand on l'écoute, vous voyez, est-ce qu'il s'agit de faire alterner la position de celui qui joue et de celui qui écoute? Est-ce qu'il s'agit de... Vous voyez, est-ce qu'au fond, l'engagement, vous rappelez, à propos de Jésus, quand on a posé cette question, lorsqu'on se posait la question de savoir comment on joue quand le Seigneur fait le mal. S'il s'agit d'apprendre par le jeu, qu'est-ce qu'on apprend quand on joue quelqu'un qui fait une mauvaise action, hein? Est-ce qu'on doit apprendre à faire des mauvaises actions, ou est-ce qu'on doit à prendre une espèce d'écart. Comment faites-vous l'écartement?
C'est-à-dire qu'on change chaque fois de position.
Mais absolument.
C'est ça qui est intéressant.
Ça rappelle un peu le... Simplement pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour démarrer votre propos par cet exercice, point de départ. C'est vrai que peut-être à cet endroit-là, il y a aussi des mouvements de
oui, non mais.
Et à la fois on est présent au monde actif, on exerce des fonctions et des races, et qu'on a cette élévation et cet approfondissement de la vie spirituelle à l'intérieur. Il y a des similitudes quand même.
La référence au cas de Jésus, hein, c'est lié, hein, on l'a trouvé.
Oui, oui.
Elle est page, dans un texte qui n'est pas de côté, mais peut-on faire partout du
terrain. Oui, mais il fait ça par le séminaire de Munich.
Dans sa différence pédagogique, dans un texte qui suppose, apparemment qu'il est tranquille, d'après l'adaptation au texte, mais quand est-ce que dans la pédagogique, c'est du théâtre nouveau, du théâtre classique. Le théâtre classique n'a rien de particulièrement nouveau, il dit en partie
son caractère démonstratif et l'accent qu'il met. Sera l'apparente au théâtre asiatique, c'est-à-dire. Quant à ces tendances pédagogiques, on les trouve déjà tant dans les mystères du Moyen-Âge que dans le théâtre des Jésuites et dans le théâtre classique espagnol.
Il y a une chose qui me passe plutôt ici, donc j'ai eu le bénéfice de lire ce texte que j'avais oublié, par rapport à ce que disait Hervé, c'est assez intéressant ce que dit Brecht, contre l'idée d'une assimilation du théâtre didactique à un théâtre au service public, en quelque sorte.
Ah oui,
parce qu'il dit. Il ne s'agit pas de jouer que des actions qui paraissent sociales. Le théâtre didactique, dit-il, doit se confronter à ce qui est asocial. Donc, je crois que c'est une phrase extrêmement importante, c'est que, même par rapport à ce que disait par expérience du mal, tout ça, c'est confond, l'épreuve du théâtre didactique, c'est pas seulement d'endoctriner, mais au contraire, de mettre à l'épreuve ce que l'État ne peut pas penser ou refoule. Parce que la phrase est extraordinaire. Le profit qui doit en tirer l'État pourrait cependant être fort amoindri par des esprits insignifiants si, par exemple, il ne faisait exécuter à ceux qui jouent que des actions qui leur paraissent sociales. Mais précisément, et fort avantageuse pour l'État, la représentation par le futur citoyen de l'État de ce qui est asocial. Surtout cette représentation est l'idée d'un président si imposant. Ça, c'est.
C'est intéressant parce que c'est lié à l'évolution. C'est pas. C'est pas à d'autres cas.
Oui.
Ce qui est lié, c'est un geste. Oui, pas bien. C'est à d'autres cas.
On est toujours parlé encore au cinéma de. Allez, c'est top, c'est ça, mais.
Thank you.
stabilité en ce moment, et on attend beaucoup de choses sur ce principe de théorie sur la personne. Je pense que là, il y a une rapport avec ce qui est en train de se faire. Je pense que c'est un peu plus justement,
pour les exercices spirituels, il y a le maître des exercices.
Là, j'avais rapproché quand il est frais, il est frais, c'est un homme de l'âme, c'est un homme de
l'âme. C'est pas nécessairement l'auteur, ça peut être dans les exercices ici, ça peut être une instance, un personnage, mais comme c'est collectif, c'est généralement le maître.
élaborer une figure, élaborer une représentation, et c'est la mise en crise de cette élaboration problématique de la représentation. qu'en fait elle suppose une vision de la société, une vision historique, qui en fait est impraticable. Parce que d'un côté, on a un monde surdéterminé de la vie, ça a habitué à une mise en crise, là, où ce qu'on interroge, c'est bien, qu'est-ce qui se passe dans ce processus de représentation, qu'est-ce qui m'entraîne toujours vers l'avant, qu'est-ce qui me fait.
Je voudrais juste pointer quelque chose dans ce que dit la phrase Esther, dans ce qu'a dit Pierre Damien, et dans la fin peut-être, de la fin peut-être ce qu'il vient de dire, il me semble qu'il y a là quelque chose qui est au point très au cœur de ce que nous interrogeons, nous essayons d'interroger. Par exemple, quand Pierre Damien dit, la question c'est comment peut-il y avoir de la contemplation dans l'action, hein, c'est ça que là ça va être plus compliqué. Qu'on puisse passer de la contemplation à l'action, mettre de l'action comme la contemplation va paraître possible, et ça va falloir commencer à la fois, mais en tout cas dans le sens ça va arriver. Alors c'est vraiment la question qui nous occupe, c'est est-ce que ce que nous parlons là, la pièce d'actif, la dispensation en général, l'enregistre en général, je sais pas quoi, la tentative, même éventuellement ayant échoué, je ne sais pas, hein. Même éventuellement, en tout cas, l'idée, ce serait d'introduire une espèce de faille, de creux dans l'action. Là, on est vraiment au cœur de ce qu'on refait, je ne sais pas, on a quelque chose de trou, quoi. L'action qui adhère à elle-même, ça, apparemment, qui vient d'un action pure. Parce que ce que cherche le didactisme, c'est à introduire un trou dans l'action. Une espèce de faille, une fêlure, voilà. Alors, un élément qu'il appelle ici par provocation contemplative. Je vous rappelle qu'ici, contemplatif, c'est dire c'est la philosophie et action, c'est la politique. C'est-à-dire c'est plus. Alors, est-ce que c'est un suspens? Je ne sais pas si c'est exactement un suspens ou si c'est plus, si c'est autre chose que ça. La question qui nous occupe est de savoir si l'acteur peut le faire tant qu'il joue, en tant qu'il joue, en tout cas, peut-être pas en tant qu'il agit, l'action qu'il joue, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est le jeu, c'est le dispositif complexe le jeu, ce serait le dispositif complexe qui permet de produire des actions et en même temps de les mettre en crise. Tu vois, c'est-à-dire que l'un et l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans le jeu ou pas du tout? Parce que le jeu, c'est. Évidemment, je pense à Césaire ou Andrecht dans son spectacle, mais c'était. Il jouait une situation qui n'était pas une situation d'action. Et je veux aussi remarquer. D'accord.
Il dit. Je ne défends pas la loi, il dit, mais mes amis veulent avoir connaissance des choses par la voie de l'expérience, c'est-à-dire de l'expérience sensible par la voie du vécu. Et ça, c'est ce qu'il dit, la citation, ils veulent être impliqués, pas confrontés. C'est que, quand même, si on lit, c'est page 240, juste au-dessus de la citation, en haut de la page. Ils veulent être impliqués, pas confrontés.
Oui. Oui, bien, c'est pas une question. C'est pas quelque chose qu'ils refusent, c'est parce que mes amis, c'est ça. Ils ont pris,
je crois que l'émission, pose un problème, si on cherche la réciprocité, le fragment, etc. C'est ça, ce sont des situations extérieures de la vie, des types humains généraux. Le théâtre, c'est justement le lieu où on peut faire cette confrontation. Je crois que c'est aussi une justification du bien par rapport à la simple reproduction, qui dépend de l'identification, à l'illusion, etc., d'un dispositif qui n'est pas nouveau, d'ailleurs, c'est une critique du fait des lumières, en fait. Donc le lieu du théâtre, c'est où on peut mettre en débat. Hein. C'est très dur, moi c'est un terme que j'aime bien parce que je trouve que ça met en discussion. Parce qu'un dimanche c'est compliqué, il y en a qui font le rôle de ceci, puis celui-là, puis là encore, ce sont des exercices rhétoriques classiques, hein, de concertation, concertation, où les gens changeaient de place dans le dispositif. Je trouvais ça chicanien, c'est assez la place classique. Hein. Jeu des personnages, de leur croisement, etc. Il y a même dans la société, ça, c'est une question où il va falloir un peu Donc je crois qu'il y a cette idée que la productivité moderne du théâtre, moi dans ces textes-ci, c'est cela. Donc, c'est cette capacité à faire ce qu'on ne fait pas ailleurs, parce qu'il y a d'autres discours, des surdéterminés, etc. Ce sont des discours, hein, autant que les réalités économiques, et c'est vrai qu'ils répondent à des réalités économiques, enfin, on est pas spécialiste. Au lieu des discours que l'on tienne, ces différents surmois, ces différents instants, etc. Je crois que c'est un espace justement de libération, d'où l'exercice, d'où l'expérimentation, d'où etc. etc.
La question Lénine, moi je veux dire peut-être que vous dites pas les politiques. Vous nous permettez juste, parce que là, c'est ce point très précis d'aller dans la direction que vous venez de dire, Jean-Marie, c'est, il me semble que dans cette position, on peut quand même distinguer deux attitudes. L'attitude qui consiste à dire je vais montrer des choses contradictoires pour que dans la chez les spectateurs ça produise un jugement, y compris un jugement. Ça, c'est le siège du montage dans la tête du spectateur, pour prendre les termes de Grotowski. Le siège du montage argumentatif, ça, c'est pas l'idée de Grotowski du tout, mais je la transpose. Et l'idée qui est un petit peu distincte, de dire que celui qui joue au moment où il le joue, il doit produire. L'exercice de cette dissociation. C'est-à-dire que c'est ça qui est un peu. On peut imaginer un théâtre, alors didactique dans un autre sens du mot. Il me semble d'ailleurs que dans des textes beaucoup plus tardifs, reste un peu aussi le mot didactique au sens de qui enseignerait au spectateur. Hein, mais bien après, au spectateur. Voilà. Bon, donc, dans un autre sens, on aurait cette vision-là. Et la question qui nous occupe ici, pour des raisons. À la fois de conjoncture et de conjoncture, il serait de savoir dans quelle mesure celui qui joue peut, tant qu'il joue, au moment où il joue, être lui-même le siège de cette activité. C'est ça qui. Mais même hors Brecht,
c'est juste pour revenir sur la façon dont tu as formulé la question. Est-ce que tout à l'heure tu disais. Que se passe comme si Brecht voulait instaurer une faille, une chaîne, etc. Je me demande s'il ne faudrait pas renverser la formation. Je me demande s'il ne s'agit pas en fait d'occuper une chaîne qui existe déjà. Voilà, dans la mesure où en fait ce que je pense, c'est la problématique de la responsabilité. Et que cette problématique, elle a été posée par les romans dans leur relecture de Kant, où en gros ils disent Kant en disant finalement quand on dit il n'y a pas d'identité de sujet, le sujet n'est qu'un processus. Et c'est sur cette base-là qu'il faut faire une théorie de la poésie, instaurer une nouvelle théorie de la poésie, qui soit, en gros, on fait des poèmes qui sont la théorie du poème. C'est là qu'on c'est une espèce de la réflexivité qui nous prend une mise dans la vie, mais en sorte redoublement. Et je me demande si simplement. C'est pas de ce point de vue-là, tu vois, qu'il faudrait prendre la problématique la discuter en disant comment est-ce que quelqu'un va suivre ses contacts en même temps. Il me semble que c'est le cours du romantisme allemand, il y aurait une première formulation de ce type de problème, non pas sur la question du jeu, mais sur la question de l'écriture.
Ouais, bien sûr.
Je sais pas en fait où se pense Michel.
Moi, je ne m'entends pas très bien à ce que vous avez dit. Je parle peut-être de la voie complexe du voltage.
C'est vous, peut-être pas explicitement, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui joue aussi, au sens où Brecht formule une théorie du modernisme qui passe par la réflexivité. Donc c'est une valeur qui est extrêmement fondamentale sur ce point. Je ne sais pas.
Ce que je me demande, c'est. Ça, c'est une autre discussion, mais pour ne pas laisser cette question en l'air. Mais c'est vraiment peut-être une question, une ouverture vers une discussion à venir, je ne sais pas. Je ne sais pas si. Excusez-moi, c'est très grossier ce que je veux dire. Je me demande si le modèle que tu évoques, c'est pas, disons, la réflexivité. Hein. Je fais et je pense que je fais, c'est-à-dire une espèce de sur, pour le dire en des termes, une espèce de suractivité, là, tu vois. Et si le modèle qu'on parlait avant, c'est pas plutôt faire un pas en arrière dans l'activité, c'est-à-dire, tu vois, une espèce de rétrocession, c'est-à-dire un creux dans l'activité. La question, je me demande si je ne dis pas que c'est ce que voulait Brecht explicitement, j'en sais rien, hein, en tout cas c'est le point où il nous conduit, nous qui sommes là. Hein. Et alors ça c'est la question que en t'écoutant, c'est mon impression. Mais même si on admettait que ce soit le même modèle, je ne suis pas sûr, mais alors est-ce que l'acteur qui joue, à la différence de celui. Ouais, est-ce que à la différence peut-être de celui qui écrit, de celui qui forme, qui formule en tant qu'il écrit, tu vois, est-ce que celui qui joue, il peut faire ça?
Mais oui, je t'en prie. Tu as été acteur.
Oui, un peu. Oui. Mauvais.
Tout cela. Mais autour de la table, on n'est peut-être pas les seuls deux.
Ah non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. J'en vois.
Par conséquent, moi, je peux faire valoir que mon expérience, mais ouais. D'acteur comme toi, extrêmement limité.
Sans les metteurs en scène, sont des acteurs ratés. On est tous acteurs en scène, sont des acteurs ratés.
Quand on joue, on n'a pas le temps de poser ces questions.
Ah ben voilà. C'est-à-dire quand on joue, on ne juge pas. Attention, si c'est ça, c'est-à-dire qu'on joue, quand on joue, on ne juge pas.
Alors,
s'il faut du temps pour juger.
Non, mais on a, quand je dis.
Pardonnez-moi, c'est pas quand vous jouez, mais c'est la répétition, c'est la formation. La formation du rôle. Est-ce que ça va vers la perplexité de l'acteur jouant ou pas? Apparemment, non. Le projet de Brecht n'est pas pour que l'acteur jouant soit perplexe sur le sens de son rôle, si vous pouvez poser la question.
Ah, c'est juste comment ça, si.
Non, moi je suis d'accord avec elle. Moi je dirais le contraire,
c'est le brechtiste, c'est la théorie de la perplexité de l'acteur. Moi j'aurais tendance à penser ça. C'est-à-dire. Alors Frédéric, je t'en prie.
Je pourrais s'en donner des réponses, parce que Il a fait tout pour parler, il a fait assez près pour arriver à... Oui, c'est ça. Il y a des... Bien sûr. Et notamment, je pensais un texte sur la façon dont le prolétaire percevait le travail de la VGM en train de jouer. Donc, le prolétaire, je ne l'ai pas exactement en tête, mais je me demandais si la VGM n'avait pas des réponses aussi.
Si elle a participé à une. Je crois. Ou alors, ou à l'importance, d'accord, mais bon, enfin bref, peut-être. Non, mais là, c'est-à-dire que tu essayes de pointer ce qui se passe. Alors, ça, c'est vraiment le jardin secret de ceux qui jouent, je pense. Voilà. Quand on, au moment où on joue, le temps des répétitions, c'est encore un petit peu différent. Mais, même. Le moment où on joue, je parle d'un théâtre où on parle. Théâtre, je ne parle pas, mais bon, pour moi, j'en fais pas partie. Le moment où on joue, si on doit parler, parce que oui, ça change tout. Hein. Enfin, je crois que ça change beaucoup de choses. Le moment où si c'est un théâtre de la parole, ou si c'est un théâtre, la dernière fois, ce qu'expliquait Ostrovski, je me sens assez. C'est loin de tout ça. Le moment de la parole. Alors là, vous êtes quelques-uns là à pouvoir en dire plus sur la parole, mais la pointe extrême du moment où on parle, si on parle et qu'on réfléchit à ce qu'on raconte, on s'arrête. On réfléchit en parlant. Si je me mets à penser exactement, c'est foutu. Le moment où le comédien joue, il joue. Enfin, non, le moment où le mauvais comédien que je suis, quand il arrive parfois de jouer, d'énoncer un texte devant des spectateurs, si je m'interroge, si je suis un petit peu trop en distance, terminé, j'ai un trou, c'est foutu, j'avance plus, enfin bon. Il faut donc trouver l'espèce de point d'équilibre tout à fait intérieure, entre la conscience qu'on a que les gens sont là, la conscience qu'on a de son corps, le souvenir qu'on a du texte, comment on va passer d'un truc à l'autre. Donc c'est un exercice d'extrême contrôle, d'extrême jugement, mais qui est d'ordre, je dirais, technique, qui n'est pas d'ordre éthique, qui ne va pas se poser le problème de savoir, ah ouais, mais le jeune camarade, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il n'est pas coupable, est-ce qu'il aurait dû mettre une pierre sous la godasse ou le pied gluant de ce puant coulis qui tire son bateau plein de riz, enfin, tu comprends. Si on se met à penser à ça, là, je ne sais pas comment on fait pour jouer. Hein. C'est le trou assuré. On a un certain nombre de tâches à exécuter qui sont d'ordre technique, se faire entendre, de ne pas trop fermer les yeux, etc. etc. Enfin,
bien fait.
Non, c'est con ce que je raconte.
Je voulais dire un truc, c'est que...
Une fois n'est pas coutume, hein, je vais faire référence à une expérience de théâtre. Une théorie de théâtre que nous avions dans l'attroupement, puisqu'il y a autour de cette table des gens, et plus d'un, qui ont assisté à ces choses il y a bien longtemps maintenant, c'était que ça se formulait dans l'énoncé, l'aphorisme suivant, le jeu, c'est le passage au jeu. Et qu'est-ce que ça voulait dire? C'est-à-dire que le jeu, c'est le passage au jeu, ça voulait dire ceci de très précis. Nous sommes, lorsque nous ne jouons pas, nous regardons, donc nous sommes spectateurs. Donc en fait, nous sommes tous spectateurs, hein, au sens où, tous spectateurs. Quand on dit tous spectateurs, ça veut dire qu'au moment où on se met à jouer, on passe au jeu, on entre dans le jeu, hein, on rentre dans le jeu. C'est ce qu'on fera pratiquer, par exemple, scénographiquement, en étant tous parmi les spectateurs, sans aucun signe distinctif, et en se levant de l'assemblée des spectateurs pour se mettre à jouer, hein, pour accuser ça, pour rendre ça bien visible. Or, l'idée était celle-ci. Lorsqu'il y a un dialogue, il y a des moments où on parle, des moments où on ne parle pas. Quand on ne parle pas, qu'est-ce qu'on fait? On écoute. Donc si on écoute, on est spectateur. Donc l'idée était radicale, au moment où tu ne parles pas, tu redeviens spectateur. Donc on redescendait sans arrêt, repartir, en bas. Pourquoi? Donc chaque fois que tu joues, tu repasses au jeu. Et la thèse spéculative qui était là derrière était le jeu, c'est ce passage même. C'est-à-dire ce qui est donné à voir, ce n'est pas le résultat du passage. C'est ce passage. C'est-à-dire, c'est le fait de jouer, c'est le passage du non-jeu au jeu. Tu vois, c'était ça la thèse, en l'occurrence, qu'on avait un peu formulée ou élaborée. Et que, si c'est vrai, ça veut dire que la réponse est un petit peu... Elle est comme tu dis, bien sûr, avec ce qui est peut-être un peu plus qu'une nuance. C'est que on ne peut pas s'installer dans l'élément du jeu. On ne peut pas y séjourner. Tu vois, on ne peut pas y séjourner. Il s'agit sans arrêt d'en redescendre. Tu vois, il s'agit sans arrêt de reproduire du... Alors, ça ne répond que de reproduire du non-jeu, de produire du non-jeu dans le jeu, hein, toujours, hein, de produire du non-jeu dans le jeu, pour que le jeu soit toujours l'opération du passage, soit toujours activé comme l'opération du passage. Comme si ce qu'on avait à voir d'un acteur, peut-être d'un grand acteur, ou d'un bon acteur, ou je sais pas, ou d'un acteur magicien, je sais pas. Moi j'ai vu faire ça par des acteurs très très traditionnels, par exemple, hein, mais dans la comédie, peut-être plus dans la comédie que dans la tragédie, je ne sais pas. Ce passage au jeu permanent, cette façon de dégonfler le jeu sans arrêt pour repasser au jeu sans arrêt. Peut-être en ce sens que Brecht disant, il y a toujours eu de la distanciation dans la comédie, bien avant la distanciation elle-même. Alors, si c'est ça, ça vous produirait une thèse pour notre séminaire, je me permets de pointer, ça serait celle-ci, ça serait, il n'y a jamais littéralement, voilà, c'est ce que je t'accorde tout à fait, il n'y a jamais conjonction absolue entre le jeu, le jouer et le juger. Hein, on ne juge pas en tant qu'on joue, donc on ne contemple pas en tant qu'on agit. Il n'y a pas d'identité entre ces deux activités. Hein, en un temps donné, on fait l'un ou l'autre, on joue ou on juge. Mais alors, la proposition brechtienne ou post-brechtienne ou je ne sais pas quoi, ou peut-être même archithéâtrale au fond, serait de produire le passage sans arrêt de l'un à l'autre, de produire sans arrêt le passage de l'un à l'autre, et c'est ça qui, même dans un rythme très rapide, hein, mais à ce moment-là, il n'y aurait jamais, je ne sais pas si cette thèse me convient, ni si j'ai envie d'y céder. Mais en tout cas, je dirais que c'est apparemment le point où nous sommes arrivés, à moins que non, je ne sais pas, mais c'est que qu'on en arrive à ce point qui serait Oui, ce que tu dis, à condition d'en redescendre sans arrêt. À condition d'en redescendre sans arrêt. De crever le ballon sans arrêt.
Est-ce qu'on ne joue pas... Je pense que la question est extrêmement complexe et c'est lié vraiment aux effets du brechtisme, aux effets modernes du brechtisme. Bon, les grandes mutations dans le jeu, donc, je sais pas, c'est de Brecht à Langhoff, de Brook à Langhoff, sont fondées sur ces ruptures. Mais moi j'ai vu récemment la Macbeth de Jürgen Gosch, oui, passer du jeu au non-jeu, mais est-ce qu'on peut passer vraiment au non-jeu? Est-ce que l'acteur qui nous joue pas le spectateur, parce qu'ils étaient au premier rang, ils ne pouvaient jamais acquérir le même statut de neutralité que moi. C'est-à-dire que, certes, ce qu'ils nous montraient, c'est ce que tu dis. Ils nous montraient le passage. Ils passaient d'une posture à une autre posture. Mais ils jouaient autre chose. Ils quittaient le plateau pour occuper la salle, mais dans la salle, c'était un acteur qui joue au spectateur. C'est ça. Mais je pense que c'est vraiment, à mon avis, ce que tu dis, c'est, je pense, l'enjeu de la transformation totale du jeu de l'acteur depuis 40 ans. Ça,
mais deux remarques. Est-ce que on peut parler, enfin, il faudrait une question. Qu'est-ce que c'est que le jeu alors? Une remarque. Est-ce qu'on peut parler, une interrogation, est-ce qu'on peut parler du jeu sans parler de la croyance? Et la dernière chose. Oui, la dernière chose, c'est ceci, c'est que jouer. Encore une fois, jouer, pour moi, ça va avec un texte. Enfin, ça ne va pas sans texte.
Bon. D'accord.
Donc, c'est une limite. Hein. C'est une limite. Bon. Bon. Quel est le travail du comédien? J'aurais peut-être pas pu dire ça il y a 10 ans ou 15 ans, mais aujourd'hui. Et la dernière expérience, précisément, que j'ai faite avec Patrick, qui pour lui, précisément, Patrick Lemoff, dans le spectacle que tu as vu à Avignon.
Il s'agissait d'un spectacle sur Adriano Sofri, hein, je tiens à le dire, parce que sur le prisonnier italien, un peu moins prisonnier, Adriano Sofri, et que dans lequel Patrick, dans une grande partie du spectacle, Patrick Lemoff jouait.
Voilà, il avait un monologue à faire, bon. Et tout le travail a été effectivement de ne pas jouer. En réalité, il jouait, mais pas jouer, mais c'est, bon. C'était quoi? C'était que, au bout du compte, si je vais le théoriser, pour lui, c'était une expérience neuve, m'a-t-il dit. Et c'était de faire en sorte que il m'intéresse. Il ne disait pas des choses qui étaient bouleversantes du point de vue du pathos, de pas ça, c'était assez neutralisé, tout ça, bon. C'était quoi? C'était d'essayer de savoir quand les mots pouvaient vibrer dans le comédien. C'est la seule question que je me pose ou que je pose aux comédiens quand je suis amené à les diriger, c'est que qu'est-ce que ça fait de dire tel mot, telle phrase, et à qui, et dans quelles circonstances? Alors, ça, évidemment, ça requiert un dégraissage absolu. Il ne s'agit pas de partir d'un priori psychologique, rien du tout. Mais je dois dire tel mot, qu'est-ce que ça fait? C'est pas pareil de dire passe-moi le beurre et je t'aime, ça c'est pas pareil. Bon, il y a des films où on peut dire que c'est pas très éloigné, mais c'est mais tout de même, a priori, c'est pas exactement la même chose de dire passe-moi le beurre, bonne confiture et je t'aime. Il y a une vibration qui est différente, simplement. Donc, pour moi, l'art du comédien, in fine, c'est quand même d'être l'âme d'un instrument, de l'âme du violon. Il doit jouer de ça qui, alors que lui-même est instrumentiste et instrument. D'où la difficulté. Il faut que ça vibre. Il y a une vibration. Il faut la trouver. On la trouve pas tout le temps. On la cherche. Mais il y a un problème de croyance. Hein.
Michel, question très proche de ce que vous dites au fond. En tous les cas, pour quelqu'un qui est assez éloigné de tout cet art, c'est pas la même chose de jouer du Brecht et du Tchekhov. Tout à l'heure, on a parlé, j'ai vu le mot de perplexité a été glissé. Je me rappelle tout à coup un personnage des Trois Sœurs, je crois, qui dit « En mon âme et conscience, je n'en sais rien ». Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il est dans autrement dit, pour un acteur, jouer la perplexité, c'est possible, comme dire, aimer Tchekhov, mais un type qui joue Brecht, donc je vous demande en tant qu'acteur, il ne peut pas être dans cette perplexité. Donc peut-on parler du jeu d'un acteur sans parler du texte au service duquel il est, ou du tu vois, voilà. Comment dire, un Brechtien, tu sais combien, comme pour les voix à l'opéra, une Wagnerienne, ça c'est une question que je pose. La perplexité, c'est le mot de Tchekhov, quoi, je veux dire. Bon, le type qui joue le didactique, c'est-à-dire pour montrer et enseigner à quelqu'un, il ne peut pas être dans cette perplexité. Puis ça, c'est plus facile de jouer Tchekhov, quoi.
Je me permets de vous signaler ce qui est toujours un drame ici, mais c'est une. Je suis content que ce soit un drame. Nous arrivons au terme de la séance. Pierre Damien.
On verra qu'il y a rapidement deux choses, parce que je réfléchis toujours sur ce à la fois. Donc en fait, je ne sais pas si c'est une bonne comparaison. Donc moi, je ne suis pas spécialiste de théâtre. Et par contre, j'essaye de comprendre, par exemple, en ce moment, un texte de Dan Graham. Qui évoque, en fait, qui par un jeu de citation, disons, qui passe par Benjamin, en fait, très certainement, a en tête un texte de Brecht quand il écrit ce qu'il écrit, bref. Donc je fais une suggestion, c'est que un appareil qui est contemplatif dans son activité ou son action même, alors là, il faudrait encore évidemment peser les termes, c'est l'appareil photo. C'est-à-dire que ça serait l'exemple type, peut-être, d'un appareil qui réussirait à être à la fois actif et contemplatif dans son fait même. Voilà. Alors après, la question c'est savoir si c'est intéressant pour un autre art hein, que celui-là. Donc mon idée, là, c'est pour embrayer peut-être sur la réflexion qui vient d'être faite, c'est que peut-être la difficulté au niveau du théâtre, ce serait d'une certaine manière parce que ce qui se passe dans l'appareil photo, c'est que quand il est actif, il y a une suspension au sein de l'appareil de toute relation moyen-fin. C'est une opération mécanique. Et donc c'est peut-être ça la difficulté pour comprendre le texte de Brecht en lui prêtant des intentions, disons, généreuses. C'est qu'il faudrait pouvoir au théâtre suspendre le texte en tant qu'il supporte des intentions et puis dans une certaine mesure, en tant que tel, il empêche l'acteur d'être simplement dans le fait. Comme l'appareil photo qui est dans l'instant où il fait la photo à la fois actif et contemplatif, enfin, de quelque chose qui est de l'ordre de l'anticipation avec l'obligation du texte qui d'une certaine manière interdit cette comparaison que je suggère entre le jeu de l'acteur et la présence de l'acteur sur scène et quelque chose comme un appareil photo. Enfin, c'est un peu confus certainement.
Non, pas du tout, c'est pas confus du tout. Bon. Eh bien, puisque c'est la règle et que nous avons essayé de nous y tenir parce que par courtoisie et puis par respect de notre parole à l'égard de nos invités, de vous tous, eh bien, je vous remercie beaucoup de cet échange. Je voudrais simplement dire que on le redira par mail, le 19 mars, nous accueillons Bernard Bloch qui vient parler à partir du théâtre documentaire, c'est-à-dire à partir d'un théâtre qui est de présentation d'un problème éthique direct et qui est pris en charge comme tel par des acteurs. Donc c'est exactement notre question, c'est-à-dire dans quelle mesure, dans le jeu ou pas, les acteurs assument la question éthique en tant que question éthique, non pas la représente ou mais l'assument par eux-mêmes dans le jeu. Voilà. Ben oui, il y a pensé, mais je ne sais pas si ça serait une très très bonne idée. Oui, voilà.
Le monologue de Yolande, qui, je pense que la grande question, c'est que dans quelle mesure Yolande, qui raconte sa propre vie 40 minutes au début de Vendée 14, est-ce qu'elle tombe dans la représentation ou elle reste justement dans la tête didactique, c'est une expérience qui est la sienne.
Merci beaucoup à vous tous, et à très bientôt. Merci à nos invités en particulier.